Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans l'émission de cette semaine, nous avons décidé de nous intéresser à un sujet de la vie quotidienne, celle qui nous concerne tous et qu'on a d'ailleurs parfois peu l'occasion de questionner, c'est notre alimentation, les Français et leur alimentation. Et on a voulu alimenter ce débat avec des éléments d'enquête d'opinion. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir Éléonore Carré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice conseil du pôle opinion OpinionWay. Et donc, vous avez réalisé, alors on peut le dire, c'est pas vraiment de la publicité, mais c'est pour Weight Watcher, donc qui est une marque connue qui fait des compléments alimentaires. Vous avez réalisé une grande enquête d'opinion sur les Français et leur alimentation. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer un petit peu quelles ont été les tendances et puis l'intérêt que représente ce type d'enquête aujourd'hui?
Bien sûr, nous avons réalisé cette étude tout début janvier, donc juste après les fêtes, c'était à propos, après une période d'excès notamment, mais de plaisir aussi. Et le plaisir aujourd'hui, on le voit dans cette enquête, est particulièrement important pour les Français dans leur alimentation parce que c'est un pilier de ces rituels du quotidien qui représentent les repas. Globalement, aujourd'hui, la quasi-totalité des Français nous disent que pour eux, c'est important de prendre du plaisir dans leur alimentation. Le problème, c'est que demeurent encore aujourd'hui beaucoup d'idées reçues, notamment concernant la perte de poids, puisque comme vous le disiez, c'était une étude réalisée pour Weight Watchers qui se concentre sur cette activité notamment. Mmh. Et notamment le fait que quand on cherche à perdre du poids, durablement et de manière saine, on ne parle pas des régimes express qui vous font perdre 15 kilos en deux semaines, dans cette logique-là, eh bien, on observe que les Français ont tendance à se dire que le plaisir n'est pas indispensable, n'est pas essentiel et qu'il faut rogner sur tout ce qui, justement, contribue à profiter des bonnes choses, à se faire plaisir, à être heureux, finalement, grâce à son alimentation. Tout ça uniquement parce que l'on souhaite perdre du poids. Or, ce qu'on observe, c'est que c'est tout à fait contre-productif.
Alors, effectivement, dans pas mal de cas, régime, c'est synonyme non pas de plaisir, mais plutôt de bannir. On bannit un certain nombre d'aliments dont on considère spontanément qu'ils n'ont plus leur place dans l'assiette et dans le garde-manger parce qu'il serait synonyme de prise de poids ou en tout cas il serait contre-indiqué pour faire un régime et on se rend compte que y a beaucoup de fausses bonnes idées quoi.
Oui, alors c'est même un peu terrifiant parce que globalement alors, la première chose c'est qu'on a près de 80% des Français qui estiment que quand on veut perdre du poids, il faut nécessairement réduire les quantités, ce qui est un peu finalement considéré comme n'étant pas vrai aujourd'hui, en tout cas pas obligatoirement vrai. Et puis plus globalement, c'est l'idée de privation qui est vraiment prônée et qui est devenue un totem de la perte de poids. Or, privation s'oppose clairement à l'idée de plaisir. Supprimer totalement certains aliments, c'est supprimer des choses qui sont à l'origine du plaisir qu'on ressent dans l'alimentation. Et surtout, c'est parfois se priver d'aliments qui sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Typiquement, dans les items qu'on a pu tester, on a pu voir que près de 40% nous disent qu'il faut totalement, intégralement supprimer le beurre et l'huile quand on cherche à perdre du poids. Or, on a besoin de ces lipides. Je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne, mais ça fait partie des choses qu'on sait aujourd'hui. C'est indispensable. On a 31% des Français qui nous disent aussi qu'il faut complètement supprimer le chocolat quand on veut perdre du poids. Mmh. 26% nous parlent des féculents. Et puis un point qui était pour moi assez intéressant, c'était fait le point sur la viande. Aujourd'hui, on est dans des tendances très pro-végétariennes, voire véganes. Très bien. Ceci étant, il ne faut pas oublier que les protéines sont un apport important et on a 43% des jeunes, des plus jeunes, des moins de 35 ans, qui pensent qu'il vaut mieux manger végétarien pour perdre du poids durablement. Donc, ils estiment qu'il faut complètement supprimer la viande de ses repas, ce qui n'est pas forcément préconisé aujourd'hui.
Alors, c'est une tendance effectivement qui est alimentée par tout un discours aussi hein, sur l'impact nutritionnel, mais aussi en termes de, on va dire, de bilan carbone. Hein. Enfin, on a aussi un discours qui tend à dire que les conditions de production de certains aliments sont attentatoires au climat et à la planète. Et donc, mais il faut faire attention. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que comme en toute chose, il faut essayer de garder un certain équilibre et surtout, finalement, ne pas éradiquer complètement tout ce qui est source de protéines. Et il y a aussi des protéines végétales.
Exactement. Alors, ce n'était pas un point forcément qu'on avait, sur lequel on avait fait un focus dans l'étude. Il y a aussi les protéines végétales. On sait qu'elles ont un apport moindre par rapport aux protéines animales et que dans le cas des protéines animales, on peut tout à fait trouver des choses qui respectent plus, ou en tout cas davantage, l'environnement. On n'est pas obligé de s'inspirer des méga-fermes en Chine. Mais oui, effectivement, en tout cas, on voit globalement dans cette étude l'ensemble des idées reçues qui ont tendance à vraiment mettre sur un podium la privation de l'ensemble des aliments qui souvent, en tout cas, sont alliés et associés à l'idée de plaisir dans l'alimentation.
Alors vous l'avez dit d'ailleurs dans une de vos enquêtes, dans un des items des réponses, il y avait cette idée qu'il fallait aussi bannir les féculents. Donc pas tri pommes des terres qui seraient source de prise de poids, pour faire simple.
Oui, on a 43% des Français qui même vont dire, au-delà de la privation, hein, mais que manger des féculents le soir, ça fait grossir nécessairement, obligatoirement. Et donc, pour cette raison, on en a un quart qui estime qu'il faut complètement les supprimer de son alimentation quand on veut perdre du poids. L'importance des féculents, elle est prouvée aussi. En fait, tout est question de modération et de rééquilibrage alimentaire. Globalement, c'est ce qu'on observe. On a interrogé les Français sur des régimes drastiques. Est-ce qu'ils les avaient faits? Est-ce qu'ils en avaient pensé? Est-ce que ça avait été efficace? Par exemple, justement, des régimes alimentaires qui auraient supprimé l'intégralité des aliments gras ou sucrés, par exemple, ou salés. Et ce qu'on voit, c'est que 30% ont pu essayer, mais seulement 12% ont trouvé ça efficace, donc une minorité sur l'ensemble des personnes qui ont testé. Et on a une conviction qui est très faible finalement sur tous ces régimes qui incitent à enlever de son alimentation certains ingrédients, alors qu'on croit toujours que c'est nécessaire. On a testé les régimes alimentaires spécifiques du type hypoglucidique ou dissocié par exemple. Pareil, 25% ont essayé, mais seulement 8% ont trouvé ça efficace. Donc dans la multitude des régimes aujourd'hui qui existent et des recommandations alimentaires, on voit bien que c'est difficile de faire le tri, de s'y retrouver et de trouver une satisfaction réelle dans l'ensemble des choses qui sont proposées.
Alors est-ce qu'il y a quand même certains régimes alimentaires ou certaines habitudes qui trouvent grâce aux yeux des enquêtés et qui dessinerait en creux peut-être des pistes à creuser ou des incitations à aller dans une direction?
Alors il y a une forme qui s'en sort un peu mieux, qui est, j'en parlais tout à l'heure, c'est le rééquilibrage alimentaire. Donc c'est l'idée, c'est le principe en fait de mettre en place tout simplement des habitudes saines et qui sont maintenues au-delà du moment où l'objectif est atteint, l'objectif de perte de poids. Donc c'est finalement réapprendre à manger en intégrant tous les aliments dans des proportions qui sont raisonnables. Et ça, on a 52% des Français qui l'ont testé, donc un Français sur deux. Mmh. Et parmi eux, 34% qui ont trouvé ça efficace. Donc la majorité, à l'inverse, 18% n'ont pas du tout été convaincus. Donc la majorité de ceux qui ont essayé, ce sera l'équivalent d'environ 60%, hein, 60% de ceux qui l'ont essayé ont trouvé ça efficace. Donc finalement, cette forme de régime, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est un peu différent d'un régime traditionnel, cette forme de régime, elle trouve grâce aux yeux des Français. Pourquoi ? Parce qu'elle permet justement d'intégrer cette notion de plaisir qu'ils pensent devoir oublier quand ils sont dans une logique de perte de poids. Or, ils le savent, on le sait, le plaisir dans l'alimentation, c'est indispensable à la fois pour le bien-être psychologique, physique. Ils sont d'accord avec ça. En fait, ils ont tous les éléments pour se rendre compte de comment bien faire. Mais les Français n'arrivent pas à relier les points entre eux et se dire que oui, il faut garder, il faut préserver une part de plaisir, même quand on cherche à perdre du poids.
Alors, il y a la notion, vous l'avez dit, de quantité, de qualité, évidemment. Mais est-ce que dans votre enquête, il y a quelque chose sur la manière de consommer ? Il y a un terme qui est... qui pourrait illustrer la situation, c'est que à la qualité et à la quantité, il faudrait aussi rajouter la régularité. S'il y a 3 repas par jour, c'est pas par hasard, c'est parce que il faut pas effectivement grignoter toute la journée. Donc est-ce que il y a le sentiment aussi de devoir, s'organiser pour prendre le temps de manger plutôt que de multiplier les temps de grignotage?
Alors, on a pu voir dans cette étude certaines choses. Je reviens aux idées reçues, hein, parce que absolument. Ça en fait partie. On a voulu savoir si pour eux, par exemple, supprimer les collations matin et après-midi, c'était bien pour perdre du poids. Et 54% nous ont dit que oui. Or, le principe des collations, c'est d'avoir des temps d'alimentation qui sont maîtrisées, contrairement au grignotage. Ce sont deux choses réellement différentes. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi dans une autre étude que nous avions réalisée pour Innocent sur la pause alimentaire, et notamment la pause alimentaire au travail. L'importance des collations, c'est de pouvoir tenir jusqu'au prochain repas sans craquer sur un paquet de chips, sans craquer sur des sucreries, des choses qui vont faire que finalement, c'est complètement, c'est un lâcher-prise total, mais qui fait que c'est source de déception au final. Donc, supprimer ces collations, c'est regrettable parce que c'est tirer un trait sur une organisation alimentaire qui permet d'avoir la main et le contrôle dessus et d'être toujours dans un temps de satisfaction et pas de frustration. Et c'est la pire des choses, évidemment, la frustration, à la fois dans une recherche de perte de poids, mais dans un équilibre alimentaire qui permet d'atteindre un bien-être général.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite contradiction ? Parce que vous dites que finalement, le bon régime alimentaire, c'est quand même celui où on est dans le contrôle et dans une forme de maîtrise, ce qui est quand même souvent contradictoire avec la notion de plaisir et de laisser aller, où en fait, effectivement, on fait ce qu'on a envie de faire et sans se poser de questions.
Alors, je comprends, mais je ne suis pas d'accord.
Ah ben non, mais on est là pour discuter.
Parce que le plaisir, il peut être contrôlé. Le plaisir, c'est savoir, par exemple, qu'on aime, particulièrement la pizza, la raclette, et qu'on a besoin d'avoir ces plaisirs de temps en temps. Le plaisir, un plaisir, justement, c'est quelque chose qui n'est pas répétitif, c'est quelque chose aussi qui peut être de l'ordre, non pas de l'exceptionnel, mais en tout cas pas du quotidien. C'est savoir s'autoriser de temps en temps quelque chose qui va susciter ce sentiment de plaisir. Si c'est quotidien, si c'est répété, ça ne devient plus un plaisir. Et justement, quand on contrôle, eh bien, on se dit, la raclette, la pizza dont je parlais, eh bien, ça pourrait être une fois de temps en temps, mais tous les jours, ça ne devient plus un plaisir. Et je prends ces exemples de repas assez gras, hein, pour le coup, parce que on le voit aussi. On avait posé une question sur ce point-là. Combien de Français refusaient systématiquement ce type de repas par peur de prendre du poids. On a un Français sur cinq qui nous dit, dès qu'on me propose une sortie ou une invitation chez des amis pour consommer ce type de repas, je refuse. Et donc, on est vraiment là dans un contrôle qui devient excessif. C'est-à-dire, c'est de l'appréhension, c'est de l'anxiété presque vis-à-vis du plaisir. Il faut savoir être raisonnable pour pouvoir s'accorder ses plaisirs.
Eh bien, ça me paraît être une bonne conclusion pour cette première partie de l'émission. Merci beaucoup, Éléonore Carré. Je rappelle que vous êtes directrice conseil chez, du pôle opinion chez OpinionWay et que vous avez suivi cette étude sur les Français et leur alimentation, le plaisir, la qualité, la quantité et tout un tas d'idées reçues que nous avons essayé de déconstruire ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci Alexis.
Et à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et on continue nos échanges autour des Français et de leur alimentation. Donc dans la première partie de l'émission, on a pu un petit peu analyser un certain nombre d'idées reçues autour des régimes alimentaires, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, ou de ce que les Français supposent être bon pour leur ligne et pour leur santé. Et en réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de beaucoup d'idées reçues. Quoi, voilà. Donc on va continuer à déconstruire ce sujet avec le docteur Gérald Kierzek. Bonjour Gérald.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo. Et puis, on a eu déjà l'occasion de vous inviter plusieurs fois dans l'émission sur des sujets qui ont un lien avec notre santé. Et donc, la première chose que sur laquelle j'ai envie de vous faire réagir, c'est que pour une grande majorité de Français, bien manger, manger pour être en bonne santé et avoir, un régime alimentaire de qualité, c'est d'abord synonyme de privation. Alors, est-ce que pour être bien, il faut systématiquement manger moins ?
Faut manger moins, mais faut manger mieux. Alors, qui dit privation, dit aussi privation de plaisir. Alors, c'est pas forcément moins en termes de quantité, parce que on peut très bien manger en quantité suffisante, avec des choses différentes et des plaisirs différents. Le problème, c'est qu'on est dans une espèce de spirale infernale dès le plus jeune âge, où on est habitué à des aliments ultra transformés, très addictif pour le cerveau, et je pense au sel et au sucre. On sait que tous ces aliments qui sont très transformés, ça veut dire quoi des aliments ultra transformés? Ça veut dire que des aliments où vous ne reconnaissez pas dans votre assiette ce qu'est l'aliment de départ. Exemple, c'est le poisson pané, par exemple. Le poisson pané, quand vous regardez un poisson pané, ça ressemble pas à du poisson. Il a été multi-transformé et il a été abîmé sur le plan moléculaire et sur le plan de ses capacités de nutrition. Et en fait, on est habitué depuis tout petit à avoir beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de transformation, et donc notre cerveau en réclame. Et donc, il faut un peu le déshabituer à ce sucre. On sait que le sucre, c'est aussi addictif que certaines drogues. Le déshabituer à de l'ultra-transformé pour retrouver du plaisir dans autre chose, dans des fruits, dans des légumes, dans d'autres types de sucres, par exemple. Bref, il faut retrouver un plaisir de l'alimentation et ça ne veut pas forcément dire privation.
Alors, une idée reçue, mais alors là, vraiment, celle-là, elle est extrêmement populaire, c'est que pour être en meilleure santé, pour perdre du poids, il faudrait arrêter le beurre et l'huile. Or, je pense que je vais vous laisser répondre, c'est pas tout à fait vrai.
Non, c'est pas tout à fait vrai. On a beaucoup pointé du doigt, stigmatisé les graisses en fait pendant des années. Et en fait, c'est pas toutes les graisses. Par exemple, l'huile d'olive, c'est une bonne graisse qui va plutôt favoriser le débouchage des artères plutôt que boucher les artères. Le beurre, c'est pas mauvais, faut en consommer avec modération, mais c'est plutôt le sucre en fait qui pose problème. Et autant on a pointé du doigt les graisses, Et du coup, on disait, bah, faites vos analyses, regardez le cholestérol, etc. Et maintenant, on est en train de revirer un peu en disant, y a les graisses, il y a des mauvaises graisses, hein, les charcuteries, etc. Mais il y a aussi des bonnes graisses qui sont indispensables à l'organisme. Et surtout, ce qui pose problème, c'est le reste, et en particulier les sucres, les produits transformés, le sel. Vous savez que le sel, par exemple, on en consomme beaucoup trop. On devrait consommer moins de 3 grammes par jour, 3-4 grammes par jour, qui est déjà apporté par tout ce qu'on mange, parce que le sel, il y en a à peu près partout.
Notamment donc tous les produits transformés.
Mais oui, donc c'est pas la peine de rajouter de salé, par exemple. Et pour nos auditrices et nos auditeurs, moi j'ai enlevé de ma table le sel, parce que si on l'a sur la table, il y a une espèce de réflexe, on le prend et on va saler avant même de goûter. Donc le fait même d'enlever la salière, et vous voyez, c'est pas se priver que d'enlever la salière, eh bien ça permet déjà de diminuer la quantité de sel, et on sait que le sel, c'est mauvais pour les artères, ça les rend rigides, ça les bouche, ça donne des crises cardiaques, à terme évidemment, c'est-à-dire que c'est l'accumulation au fur et à mesure des années. Donc dès le plus jeune âge, si on enlève sur la table la salière, les enfants vont pas prendre l'habitude de saler, et quand ils seront adultes, eux-mêmes auront de bonnes habitudes.
Et au niveau gustatif, effectivement, c'est aussi une habitude, quoi, finalement.
C'est une habitude, et puis on va même retrouver le goût des aliments. Vous parliez de privation. On sait qu'on fait mal quelque chose, on fait mal la mastication. Vous savez, quand on mâche, il faudrait qu'on mâche plus longtemps. Ça permet de mieux digérer, de perdre du poids, d'envoyer des signaux au cerveau qui disent que, on est en train de manger et on a suffisamment... manger, par exemple, suffisamment en termes de quantité. Donc, si on se goinfre, vous voyez, vous prenez, un hamburger et vous le mangez très, très vite. Mmh. C'est du fast food aussi.
Trois bouchées.
En trois bouchées, non seulement, c'est de la nourriture ultra transformée. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Moi, j'adore aller me faire un fast food de temps en temps avec modération. Mais en revanche, au quotidien, il faut mâcher, prendre le temps. Ne serait-ce que ça, ça va permettre avec le même aliment de pas avoir le même effet. C'est-à-dire que le fait de le mâcher va permettre de mieux le digérer et donc de moins grossir. Ça a été montré, le fait de mâcher fait perdre du poids, par exemple. Vous voyez, on change pas ce qu'il y a dans l'assiette, c'est juste la manière dont on le mange.
Alors, autre idée qui est notamment véhiculée auprès des plus jeunes, 4 jeunes sur 10 pensent qu'il est préférable de ne plus manger de viande pour perdre du poids durablement. La consommation, au même titre que celle du gluten, est questionnée, et on a notamment cette idée qu'un régime végétarien favoriserait mécaniquement la perte de poids.
Non, alors, encore une fois, moi, je suis toujours gêné quand on prive ou quand on interdit ou quand on est un peu radical en disant plus de viande, on est végétarien. Vous savez, il y a quelque chose qui est très, très prôné actuellement, c'est d'être flexitarien. C'est de dire je mange moins de viande, et on sait qu'il y a un rapport avec la viande et puis certaines maladies. Si on mange trop de viande rouge, c'est vrai qu'on peut avoir certaines maladies, et c'est vrai que avec les viandes, c'est plutôt certaines graisses, et puis on va manger d'autres choses autour de la viande, et il y a probablement une augmentation du poids. En revanche, il faut pas supprimer la viande, parce qu'on risque certaines carences, ou en tout cas, il faut faire attention, notamment quand on est fragile. Donc le régime flexitarien, c'est de dire je mange de tout, mais je mange en quantité raisonnable. Donc on peut manger de la viande, on peut être végétarien aussi, hein, sans aucun problème, mais il faut faire attention quand même à éviter certaines carences. C'est autre chose quand on est végétalien, vous savez, les véganes. Oui. Parce que quand on est végan, il y a certains,
plus d'œufs.
Quand on mange plus d'œufs, quand on mange plus du tout
plus de
produits dérivés des animaux, là on a un risque de carence, donc il faut vraiment se faire suivre sur le plan nutritionnel. Mais on peut pas interdire ou arrêter la viande. Vous pouvez très bien perdre du poids en mangeant de la viande. C'est sûr que si vous mangez de la viande avec de la sauce béarnaise dessus et puis des frites à côté, le problème c'est pas la viande, c'est la sauce et c'est les frites.
Et c'est l'accumulation de produits très riches en graisse ou en glucides.
Oui, exactement. Et puis il y a quand est-ce qu'on mange, à quels horaires, est-ce qu'on grignote, est-ce qu'on grignote pas, est-ce qu'on prend des grosses quantités, est-ce qu'on se resserre, avec quoi on va agrémenter cette viande. On voit bien que globalement, il ne faut pas interdire, mais il faut modérer la consommation, varier la consommation. Parler du gluten, il y a eu une mode aussi sur le sans gluten. le sans gluten ne fait pas forcément maigrir, de même que manger du gluten ne fait pas forcément grossir. En revanche, si vous avez une assiette de pâtes, donc du gluten, et que vous avez du pain que vous mangez en plus des pâtes, bah là, ça fait double emploi. Ça fait doublon, donc il faut plutôt jouer les équivalences. Il faut plutôt, quand on mange des pâtes, ne pas prendre de pain. Donc vous voyez, c'est tout ce, j'allais dire, cette conscience un peu de bien manger, de manger à des horaires réguliers aussi, d'éviter le grignotage, parce que tout ça, ça augmente le nombre de calories. Bref, il faut un rééquilibrage alimentaire.
Alors justement, autre idée reçue qui ressort de cette enquête d'OpinionWay, les féculents qui font grossir, et en particulier si on en mange le soir. Là aussi, il faut tout est dans, je dirais, l'équilibre, puisqu'on a aussi besoin de glucides, puisque pâtes, riz, pommes, c'est aussi le carburant indispensable de l'organisme.
Oui, bien sûr, dans les féculents, il y a des sucres qui sont des sucres lents. Ce qu'il faut, en fait, c'est diminuer les sucres rapides, ce qu'on appelle un index glycémique qui va augmenter l'insuline. Vous savez, l'insuline, c'est cette hormone qui va réagir quand on a du sucre pour faire baisser le taux de sucre. Si vous prenez des aliments très sucrés, hop, il y a un pic d'insuline, et ça, c'est mauvais de faire ces variations dans l'organisme. Donc, il faut plutôt avoir une espèce de constance un peu dans le niveau de sucre. Donc, alors des féculents, encore une fois, vous pouvez en manger. Il faut peut-être pas en manger tous les soirs parce que c'est peut-être pas une bonne idée. De même que la ration calorique le soir, bah, la nuit, on ne se dépense pas, on fait pas d'activité physique. Donc, il faut peut-être réserver un repas un peu plus copieux et en ration calorique un peu augmentée dans la journée, par exemple pour le déjeuner, et le soir être plutôt sur quelque chose de léger. Mais tout ça, encore une fois, ça dépend de votre activité. Si vous travaillez la nuit, par exemple, vous allez inverser ça. Ce qui est important, c'est la régularité. Ce qui est important, c'est quand on veut perdre de poids, de ne pas se priver, parce que l'organisme a un réflexe. Si vous le privez, eh bien, il va tout faire pour rattraper, et donc il va stocker des graisses. Et c'est comme ça qu'on voit l'effet yo-yo. Quand on se prive beaucoup, on ne tient pas longtemps. Mais c'est aussi que le stockage des graisses va se faire parce que l'organisme, il est bien fait, il est en mode survie et il dit, ben, dès que je vais manger un petit peu, je le mets du côté des graisses et ce n'est pas l'objectif.
Alors justement, un dernier point sur cette idée de la privation de certains aliments. Là, dans l'enquête, il y a clairement 32% des gens qui veulent... maigrir ou perdre du poids, ils disent qu'il faut supprimer complètement le chocolat, qui apparaît un peu comme l'ennemi absolu. C'est ce que vous disiez, c'était les sucres rapides, enfin bon, les pics. Donc est-ce que là c'est pareil, c'est une question de mesure finalement.
De modération, y a quand même deux choses. Il y a un, si on se gave de chocolat, évidemment, surtout si c'est du chocolat au lait ou du chocolat blanc, c'est-à-dire qu'il y a plus de sucre que de chocolat, que de cacao. Donc là, c'est sûr que la quantité va faire que forcément, ça amène des calories. Mais surtout, le chocolat, c'est le plaisir. Donc pourquoi ne pas finalement remplacer un dessert par un petit carré de chocolat noir à la fin du repas? Moi, je sais que j'adore avoir un peu ce goût sucré. C'est ce que les anglo-saxons appellent la dent sucrée. Justement, j'ai un petit carré de chocolat noir, ça apporte pas grand-chose en termes de calories, mais ça apporte beaucoup en termes de plaisir à la fin d'un repas. Donc l'idée, c'est pas de supprimer. Et puis quand on est, en période de fin d'année, ça fait partie du côté festif de manger un peu de chocolat. On va compenser d'un autre côté en diminuant l'apport d'autres calories, en disant, j'ai un peu forcé sur le chocolat. Je vais diminuer un peu, par exemple, avec un peu moins de fruits, un peu moins de yaourt. Attention aussi, tout ce qui est jus de fruits, yaourt, sucré, etc., ça apporte beaucoup de sucre. Mais on ne va pas aller supprimer les choses. Ce n'est pas parce que vous prenez un carré de chocolat après chaque repas que ça va vous faire prendre 3 kilos.
Alors, il y a aussi parfois des effets sur la vie sociale, d'avoir cette... en tête un certain nombre d'idées reçues, par exemple.
Tout le temps. Ouais. Il y a des effets sur la vie sociale. Le repas, c'est la vie sociale.
Ouais, et justement, un Français sur 5 refuse encore aujourd'hui des invitations à manger, une raclette, une pizza, un apéro dînatoire au restaurant, chez des amis ou de la famille, uniquement par peur de prendre du poids.
Encore une fois, on peut
donc
très
on se prive
bien.
On se prive aussi d'une vie sociale parce qu'on a ces idées en tête, ces idées reçues.
Ouais, de relations sociales. Alors qu'une raclette, ça fait plaisir à tout le monde. On peut aller à la raclette, on n'est pas obligé de se gaver. On peut peut-être diminuer un peu ce qu'on a mangé les repas précédents quand on sait qu'on a une raclette. Ou quand on a mangé la raclette, on va diminuer sur ce qu'on mange le lendemain, par exemple. Mais pourquoi se priver de ce côté social? Et puis à la raclette, on n'est pas obligé non plus de se servir à ne plus pouvoir manger. On sait très bien que quand on prend une raclette, on a tendance à en manger beaucoup, etc. Donc là aussi, le fait de ralentir le rythme va faire qu'on va prendre moins en termes de quantité et on peut participer au repas et au côté plaisir sans aucun problème. Donc c'est vraiment une partie, le plaisir, c'est une partie essentielle de l'alimentation. Et si on enlève cette partie plaisir, eh bien on ne va pas tenir, l'organisme, notre psychisme ne va pas tenir longtemps. Et si on tient pas longtemps, c'est le fameux yo-yo, c'est-à-dire qu'on va reprendre. En plus, on va malheureusement avoir peut-être des angoisses, un état psychologique qui va se détériorer. On sait très bien que notre cerveau, il a besoin de carburant, un peu comme un moteur, et on va repartir de plus belle en reprenant des kilos. Vous savez, c'est le concept des kilos émotionnels. Quand on n'est pas bien, on mange.
Alors, on a encore du boulot, du coup, parce que quand on voit effectivement toutes ces idées reçues en matière d'alimentation, on voit qu'il y a un vrai travail d'éducation et de connaissance des grands principes d'une alimentation équilibrée, ce qui n'est pas forcément le cas. Ma dernière question, Gérald, ça sera sur aussi l'adaptation du régime alimentaire à l'activité. On est dans des sociétés
sédentaires.
De plus en plus, avec une aggravation de la sédentarité liée notamment aux tablettes, à tout un tas d'activités qu'on pratique assis, et globalement, même dans l'activité physique, on est sur des tendances longues, à un effondrement du niveau d'activité physique par rapport, sans remonter jusqu'au Moyen-Âge, mais même à un siècle d'écart, c'est déjà énorme ce qui s'est passé, donc... il faut effectivement prendre en compte son niveau d'activité finalement pour adapter son alimentation.
Oui, et c'est le fameux manger, bouger, c'est-à-dire qu'on va manger, moins, mieux, différemment, mais il faut bien sûr bouger, il faut lutter contre la sédentarité. Alors c'est des moyens très simples, c'est d'aller... pour les ados au collège, lycée, par exemple, avec le vélo, avec la trottinette, avec les rollers, avec ce que vous voulez, à pied, c'est un excellent moyen, par exemple, aussi. C'est augmenter tout ce qui est activité physique, mobilisation des muscles. Et il faut au minimum 30 minutes à une heure pour des ados d'activité physique quotidienne. Et pour des gens adultes, il faut bouger absolument dans la journée. C'est du jardinage, c'est aller faire ses courses à pied, c'est prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Tout ça, ça va permettre aux cellules d'avoir le sucre qui va rentrer dans ces cellules-là et d'éviter ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Ça, c'est le diabète de type 2 qui est lié à un surpoids et qui est lié à un manque d'activité physique. Donc c'est vraiment les deux, c'est manger, bouger. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site du gouvernement, c'est mangerbouger.fr qui est vraiment un site bien fait. Vous avez des recettes et vous avez aussi des petits trucs et astuces pour pouvoir mieux bouger à tout âge.
C'était très bien pour conclure cette émission. De faire cette publicité au site du gouvernement et aux politiques de santé publique d'une manière générale sur cette question qui est une vraie question de société. Merci beaucoup Gérald Kerzek d'avoir répondu à nos questions de manière extrêmement précise. On y verra, on y voit plus clair un petit peu sur les idées reçues et en matière d'alimentation. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo, et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Exactement, et je viens de sortir un livre qui vient de sortir en poche qui s'appelle Votre santé dans le monde d'après, préparé là aujourd'hui, et l'alimentation ça en fait partie. Si on veut résister aux futures épidémies, avoir un meilleur système immunitaire, bref, être en meilleure santé, on a des réflexes à adopter et à prendre soi-même.
Et c'était très bien de nous le rappeler. Merci beaucoup Gérald.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.